une création.
Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans nos sourires, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast, c'est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins de les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Alors, je vais donner un nom d'emprunt, donc. c'est Camille.
Seule comme toi, épisode 1, Camille, la femme qui flotte.
J'ai 54, bientôt 55 ans. J'habite à Tours. Je suis originaire de Tours. Et j'ai une famille avec un mari et deux enfants qui sont grands et qui n'habitent plus à la maison.
Camille pourrait être un personnage de Balzac, une sorte de Jenny Grandet. Je l'observe marcher dans les rues de Tours. Elle dégage une forme d'ennui. C'est lent, profond. Les gens s'activent autour d'elle. Camille ne semble pas savoir où elle va. Elle avance dans un autre temps. Ne fait pas partie du monde qui l'entoure. Elle s'approche de moi. Je ressens sa mélancolie. J'ai toujours aimé ce mot, mélancolie.
Alors la solitude, moi j'ai toujours eu l'impression d'être très seule. Alors j'aime beaucoup la solitude, mais comment dire, j'aime bien qu'on m'en sorte. Mais c'est pas moi qui vais sortir de la solitude toute seule, c'est que c'est assez compliqué pour moi. Alors, certainement que sans le faire exprès, je me mets une sorte de barrière que je sais pas, dans le regard, je sais pas. Mais en général, les gens ne vont pas forcément vers moi. Je pense que j'ai très peur des gens. Et j'ai peur du jugement aussi, certainement. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un mélange de plein de choses.
Camille a préféré qu'on se retrouve chez moi. Chez elle, c'est trop familier. On est assise à la table de ma cuisine. Penny, ma chienne, dort la tête posée sur mon pied. Je sers le thé. Les yeux de Camille sont tristes. Parfois, elle met du rouge à lèvres. Pas aujourd'hui. Elle ne porte pas de parfum. Elle ne parvient pas à trouver le sien. Elle pense que ce qu'elle raconte n'a aucun intérêt. Que les gens la pensent froide, hautaine. Ça lui fait mal parce qu'à l'intérieur, c'est tout le contraire. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est dur de savoir. C'est terrifiant aussi, surtout. Beaucoup trop de gens passent leur vie à faire semblant de se connaître. Les certitudes rassurent. Camille n'en a aucune. C'est sa faiblesse. J'y vois une force.
Tu vois, là, je me livre à toi. Pour moi, c'est un truc énorme. C'est un truc vraiment énorme. Parce que je ne me livre pas aux gens, même les gens les plus proches de moi, c'est très compliqué pour moi. Et j'ai très peur, en fait, qu'on voit qui je suis vraiment, en fait. Je pense que j'ai peur de ça. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à cacher, en fait? Rien. Donc, c'est très paradoxal. Et en fait, ça m'a suivi toute ma vie, en fait. Je crois que les gens s'imaginent des choses... Je sais pas. Et en même temps, j'ai pas très envie qu'ils sachent tout de moi. J'aimerais bien être invisible. J'aimerais bien être là, juste écouter, et surtout qu'on me demande pas d'interagir avec les autres.
Quand t'es seule, à quoi tu penses ?
À quoi je pense ? Je peux penser à ce que je vais faire... Le lendemain, je peux penser... je lis pas mal, je lis, je m'imagine des choses par rapport à ma lecture, et j'oublie complètement. Et c'est peut-être ça la vraie solitude, en fait, c'est qu'il y a tout passe comme ça dans la tête, et puis rien ne reste, rien ne... Il y a rien, enfin, c'est pas resté. Oh, mais sinon, je peux penser... par exemple, j'adore l'île d'Ouessant. J'imagine que j'y retourne, que je me balade, Ça peut être des sensations comme le vent sur le visage. Et en fait, moi, quand je suis à Ouessant, j'ai l'impression d'être vraiment moi. C'est-à-dire que je suis dans un endroit, je suis un peu ancrée. Et quand je suis ailleurs, je n'ai pas l'impression d'être ancrée, je suis un peu au-dessus. Un peu...
Comme si tu flottais ou ouais, t'étais
peu,
pas...
Un peu comme un flottement. Et je n'ai jamais l'impression d'être dans la réalité. Je trouve ça super et en même temps, je me dis, mais attends, mais les gens, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas vers moi, c'est que je ne suis pas là, en fait. Je suis là sans être là. Je réponds aux gens, mais en fait, il n'y a aucune conséquence. Enfin, je ne sais pas comment te dire. C'est...
Oui, un flottement, une forme de
flottement.
Errance.
Ouais, d'errance. C'est une errance dans ma tête, c'est une errance dans ma vie, je peux te dire. Hein, je peux le dire, je pense que je suis dans une sorte d'errance.
Sur le mur de ma cuisine se dessine le personnage de Camille, au sommet d'une falaise. Elle regarde le ciel, pas le sol. Je bois une gorgée de thé. Penny pose son museau sur ma cuisse. Le mur devient blanc. À Paris, Camille étudie l'histoire de l'art. Elle fait quelques petits boulots avant de tomber enceinte. Elle retourne alors vivre à Tours, dans la ville où elle a grandi. Son mari, lui, continue de travailler dans la capitale. Tous les matins, il s'en va et la laisse seule à la maison. Mère au foyer, elle a horreur de ce terme. Ce n'est pas elle, ce ne peut pas être elle. Camille tente de retenir sa colère. L'autre soir, elle a crié dans la maison.
Quand j'ai eu mes enfants, je me suis retrouvée seule avec eux, en tout cas parce que mon mari même n'était pas vraiment là. Et alors là, je pense que ça a été une solitude désespérante, là, pour le coup. J'avais l'impression de pouvoir me raccrocher à rien du tout. Surtout qu'on a eu une fille assez difficile. Et j'avais l'impression de couler. J'avais plus d'amis. Et en fait, là vraiment, je suis rentrée dans une solitude et une mélancolie, je pense, qui n'existait pas avant. Moi, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on appelle une dépression postpartum. Je ne sais pas si j'ai fait ça, mais j'ai parfois l'impression que c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression que ma fille était intenable, que tout le monde nous regardait. Enfin, que c'était, enfin, tout ça, c'est très compliqué. Alors, j'ai eu tout de suite un autre enfant. J'ai eu deux enfants en 2 ans. Et le deuxième était très, très calme. Même si, maintenant, je considère que mon fils a chopé cette fameuse mélancolie que tu trouves chez moi. Alors après, c'est vrai que devenir mère, pour moi, ça a été très compliqué. Ça remonte à la surface, en tout cas des choses. Et j'ai eu vraiment l'impression, à ce moment-là, vraiment, que mes neurones commençaient à se réduire et que j'avais plus de perspective du tout. Que les enfants. Et là, là c'est compliqué. Cette solitude-là... non, je veux plus y retourner. Et en même temps, je te dis, j'en suis pas complètement sortie. Et franchement, ce fameux regret d'être mère qui pose tant de problèmes parfois, eh ben, j'ai l'impression de le connaître. Alors, j'adore mes enfants, mais franchement, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est le seul moment aussi où je me sentais bien, où je me sentais dans la réalité alors que normalement on ne devrait pas, enfin c'est le contraire, on n'est pas dans la réalité, c'est quand je joue au théâtre, ça m'est arrivé, et en fait là j'avais vraiment l'impression d'être dans une réalité qui était qui n'était pas la mienne, mais je me sentais vivante, voilà, vivante. Et c'est vrai que quelque part, jusqu'à maintenant, je me suis toujours trouvée un peu morte. Je sais pas comment te dire, un peu inconsistante, en tout cas.
Morte, c'est fort.
Ouais, je sais, ouais. Mais c'est vraiment ça que je ressens. Une sorte de mort intérieure, ouais. Comme s'il n'y avait pas de souffle. Et c'est triste, mais j'ai l'impression d'être, de pas avoir trop d'émotions, sauf pour les animaux. Là, oui, je ressens beaucoup, j'ai beaucoup de connexions avec les animaux. J'ai l'impression d'avoir des connexions avec les animaux, ça se trouve, c'est pas non, que dans ma tête, mais en tout cas, ça me rassure. Et c'est très compliqué pour moi d'avoir des connexions avec les humains. Alors, si je pouvais en avoir avec les animaux, ça, j'aime. Et quand j'étais toute petite, j'ai beaucoup vécu dans une ferme et moi, je passais des heures à regarder les animaux, à essayer de rentrer en connexion avec eux, tu vois, par le mental. Mais j'avais l'impression que ça marchait, quoi. Ça se trouve pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment des trucs. Et là, actuellement, je me dis, ah tiens, j'ai toujours eu peur des chevaux, mais là, en ce moment, j'ai très envie de monter sur un cheval, par exemple. J'ai très envie d'être en connexion avec un cheval. J'ai envie de sentir quelque chose de vivant. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, cette sensation de d'être morte, c'est quelque chose, j'ai l'impression que j'ai toujours eu. Voilà, je sais. Je pourrais pas dire. Oui, alors évidemment, quand tu tombes amoureux, il y a des choses qui s'animent, forcément. Mais comme si j'étais à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui me pilote à côté. Je suis pas dedans. C'est très très rare que je sois dans quelque chose. Je suis. Voilà. Avec ton micro, j'ai vraiment l'impression de raconter ce que je suis, mais je suis sûre que quand on va arrêter, je vais me remettre à côté de moi. Et je me dis, mais est-ce que tout le monde est un peu comme ça? Ou il n'y a que moi? J'ai toujours l'impression qu'il n'y a que moi, mais...
Non, je crois pas.
L'impression d'être dans une réalité parallèle, enfin, comment dire, de se regarder vivre et de se dire, ouais, bah, tu fais pas des trucs super, en fait. mais ne pas être dans son corps, quoi. Voilà, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça, ne pas être dans son corps. Et pas dans ses émotions, et pas dans sa tête aussi, hein, enfin. Je sais pas. Et en même temps, je me dis, bah, s'il y a des gens qui me voient comme ça, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très grave? Bon, à part que les gens viennent pas forcément vers moi, mais je me dis, ça peut aussi... c'est aussi une façon de vivre et puis un refuge. Et moi, ça me convient. Après,
ça te convient vraiment?
Bah, c'est là où je sais pas trop si ça me convient vraiment. Je me dis que ça peut être une posture aussi à force de vivre comme ça. En fait, les gens ne viennent pas vers toi. Toi, tu te dis, bah, tant pis. Et puis en même temps, t'en souffres un peu quand même parce que tu te dis, oh, bah, oui, mais cette personne-là, finalement, j'aimerais bien discuter avec elle. Mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que j'ai envie encore de rester comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que si je voulais en sortir, ça serait très compliqué. Et puis en même temps, c'est pas moi. Donc, si je peux m'améliorer un peu, ça serait pas mal quand même, je pense.
Camille a un problème de mémoire. Son enfance a disparu. Elle ne veut pas creuser, par peur de découvrir un secret. J'imagine s'animer la petite Camille. Elle a les mêmes cheveux courts, le même regard triste. Elle se lance à la quête de ses souvenirs, accompagnée de monstres miniatures. Il laisse des traces de larmes sur sa route. Au bout du chemin, la finette ne trouve rien.
en fait, bah, quand j'ai eu entre... À partir du moment où j'ai su lire assez vite, hein, j'ai beaucoup lu. Mais comme dans ma vie, ça passe. Enfin, tu vois, ça passe dans ma tête, mais ça ne reste pas.
Il n'y a rien qui reste.
Quasiment rien.
Mais quasiment, donc il y a bien un truc qui reste, non?
Oui, bah certainement des impressions, des émotions qui arrivent quand tu lis, mais en fait, pas tant que ça. Et j'ai beaucoup lu, mais vraiment. Je passais mon temps à lire, mais ma mère me sortait de mon lit. En vacances, je ne sortais pas de ma tante. Voilà, je passais mon temps à lire. Et je me souviens de rien, à part des trucs très forts comme Georges Bataille ou des trucs là. Tu dis, ah ouais, d'accord. Bon, bon ça, c'est des lectures très fortes comme ça. Mais sinon, ça, rien ne reste. Mais la lecture, c'était vraiment pour rentrer dans un imaginaire et ne pas me confronter à tout ce qu'il y avait autour de moi. Quoi. Ça, c'est sûr.
Pour rentrer dans une histoire qui n'est pas la tienne.
Ouais, surtout ça. Surtout ça. Et d'ailleurs, j'adore les histoires.
Ouais, et puis je pense que tu as besoin de ressentir des choses à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, tu as du mal, non?
Ouais, je pense, ouais. C'est comme pleurer, par exemple, quand on parle d'émotions, là, et tout ça, et bah, pleurer, pour moi, c'est très compliqué. Je pleure pas très facilement. Et pourtant, j'aimerais, pour lâcher, mais je sais pas trop faire. À la mort de mes parents, j'ai pas pleuré. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui pleurent pas à la mort de leurs proches, mais c'est alors là, pour le coup, c'est la mort des proches. Je pense que j'ai dans ma vie, j'ai toujours l'impression d'être à côté, mais alors là, j'avais vraiment l'impression d'être à 2 mètres au-dessus de moi, quoi. Il y a eu ces deux morts différentes, une mort violente, on va dire, et une mort par maladie. Donc là, t'as le temps de t'y faire. Hein. Mais c'est vraiment des moments où j'étais pas là, quoi. J'étais pas là et d'ailleurs je m'en veux un peu parce que pour ma mère j'aurais pu être plus présente, mais je ne pouvais même pas la toucher. C'était tellement compliqué pour moi, impossible de lui parler, de... Et je m'en veux beaucoup, hein. Je m'en veux beaucoup parce que si tu peux pas parler à des gens qui vont mourir, c'est un vrai problème quand même. J'ai l'impression. Quoi. Mais je pense que la mélancolie dans certaines familles, elle est... Enfin, des gens mélancoliques de génération en génération, je pense que ça existe. Après, j'ai l'impression que la mélancolie, elle vient plus du côté de mon père que de ma mère. J'ai toujours eu l'impression que mon père était extrêmement mélancolique. Moi aussi. Mon fils aussi. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas.
Et t'en parles avec ton fils?
Lui, il est beaucoup plus conscient de ça. Alors que moi, je ne l'étais pas forcément. Hein. Je me sentais différente, mais après, j'aurais jamais mis le mot mélancolie sur moi. Ma mère me disait toujours que j'étais très froide et que je prenais un peu les gens de haut. Et bah, je suis restée avec ça, en fait, en me disant, ah bon, enfin, bon, ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que je suis avenante, on va dire. Mais en fait, non, je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Mais c'est pas comme ça qu'elle aurait dû me le dire, je pense. Je prenais les gens de haut, voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que dans ma famille, en tout cas paternelle, bah, ça manquait un peu de... Comment dire Bah voilà, qu'on n'était pas très intellectuel et que bah, c'était un peu bas de plafond parfois, etc. Et ça me dérangeait beaucoup, beaucoup. Quand j'étais petite, ça me dérangeait énormément. Et ça me faisait même horreur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a considéré que je me prenais pas pour de la merde, on va dire. Mais c'est pas. En fait, c'est juste que moi, j'aspirais à autre chose, quoi. Et ça, c'est pas facile dans les familles quand il y a ce décalage. J'avais l'impression de. Alors que je faisais pas non plus des trucs extraordinaires. Hein. C'est juste que je suis allée à l'école et que j'ai fait des études supérieures et pas eux. Enfin, voilà, c'est tout. Hein. Il y a pas. Mais. On m'a mis aussi sur un truc disant celle-ci, c'est une intellectuelle. Alors que moi, je me sentais juste en décalage avec eux, mais pas et c'est pas pour ça que je les aimais pas d'ailleurs, même si parfois ça me gênait, mais c'est pas pour ça que je les aimais pas. Par exemple, mon père, il savait assez mal écrire, plein de fautes, enfin tu vois, mais jamais je l'aurais fait ressentir ça. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me parle, ben ça, il ne l'a pas fait non plus. Enfin, je veux dire, est-ce que c'était dû à son manque d'éducation, à sa mélancolie que moi aussi j'ai, ou à autre chose, je ne sais pas. Mais ce problème de communication, ouais, ça, j'avais l'impression de ne pas pouvoir communiquer avec eux, vraiment.
Au quotidien, Camille ne vit pas, elle fonctionne. Aller au marché le mercredi et le samedi, prévoir les repas, aller d'un point A à un point B, dîner chez des amis, sourire, ne pas émettre d'avis, dire on verra, dire je sais pas, tous les jours recommencer. Camille n'a jamais vécu seule. À la maison, avec son mari, on ne parle pas de soi. On cuisine, on mange, on regarde des films, on marche, on s'engueule, on se raconte des trucs insignifiants, on dort. 23 années à vivre comme ça. Camille ne dit pas vivre. Camille dit mourir.
T'es très seule, mais en même temps, tu l'es pas vraiment. Donc,
Non, je suis jamais vraiment seule. Bah, là, c'est vrai que depuis le Covid, encore moins. Parce qu'avant, je passais pas mal de journées quand même très seule. Maintenant, mon compagnon, il est quand même là souvent. Mais en même temps, on vit dans une maison avec des étages, donc en fait, chacun son étage. Et donc, on se voit pas tant que ça. Mais rien que de savoir qu'il y a une présence, même si on se parle pas, ça me dérange, en fait. Parce que j'aime vraiment la vraie solitude.
Tu préférais qu'il soit pas là ?
Ah bah oui, dans l'absolu, je préférais qu'il soit pas là. Après... C'est bien qu'il soit là aussi, enfin je veux dire, c'est. Je sais pas, je sais plus trop. Mais.
Mais quand il est là, vous faites quoi par exemple ?
Ah bah on fait pas grand chose, hein, à part manger, discuter, regarder les infos, enfin les infos à la télé de temps en temps, des films, aller au cinéma.
Et t'arrives à lui parler de toi ?
Non. Je parle pas de ma solitude, je pense que. Je sais pas s'il arriverait à comprendre ça. Je pense qu'on est tous les deux, on vient tous les deux de familles paysannes et je pense qu'on est vraiment des taiseux, quoi. Je sais pas si c'est vrai cette histoire des gens de la terre qui sont plus taiseux que les autres, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on... Non, on se parle très peu de ça. On se parle très peu de ça. Voire pas du tout.
Et aujourd'hui, t'as l'impression de pouvoir communiquer avec des gens ou...
Avec des gens, en général ? Bah, si on parle pas de choses trop... Oui, j'arrive à communiquer, après...
Pas de choses trop quoi, intimes ?
Oui, pas trop intimes, ouais. Mais je pense que c'est... Ouais, c'est un vrai problème chez moi. Parfois, je me dis, oui, je pourrais faire comme si, je pourrais faire comme ça avec cette personne... Mais je me dis, j'ai l'impression de ne pas la comprendre. Voilà, j'ai l'impression de ne pas comprendre les gens. J'ai l'impression que je suis à côté, que ma réaction, elle va être à côté, que j'ai une handicapée de la vie, quoi. Un petit peu ça.
Camille, ils diront de toi que tu es mère au foyer. Que tu es indécise, que tu es triste, froide, que tu cuisines bien, que tu ne gagnes pas d'argent, que tes gâteaux sont aussi beaux que bons, que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne vis pas dans la réalité. Ce ne sont que des mots. Tu as le droit de ne pas vivre dans cette réalité. Tu as le droit d'être mélancolique. Tu as le droit de flotter. Mais dans les airs, tu es condamné à l'entre-deux. Là, mais pas vraiment. Seule, mais pas vraiment. Presque morte, presque vivante. J'ai l'impression que tu sais tout ça. Tu caresses la tête de Penny. Elle se laisse faire. Ça te fait du bien. Camille, je te regarde. Je te ressens. Si moi, je t'ai trouvée, je pense que toi aussi, tu peux y arriver.
C'est compliqué encore. Peut-être que ça va aller mieux, hein, je sais pas. J'avoue que là, je suis un peu dans l'expectative. Je sais pas. J'avance petit à petit. Mais ça va.
Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Un grand merci à Camille pour sa confiance. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue.
Une création
Blast.